sur les voies du paranormal, Jérémy Narby, docteur en anthropologie, est l'invité de Marc Menant.
Oui, Jackie. Alors, deux, trois petits points comme ça au 01 42 32 15 15. Déjà, tout à l'heure, on a raconté les faits vécus par Harner. Hein, ça s'écrit H-A-R-N-E-R, oui. Peut-être un anthropologue américain.
Oui.
Vous avez un titre de livre, éventuellement, on nous demande ?
Oui, c'est... en anglais, c'est The Way of the Shaman. C'est la voix du chaman, je crois.
D'accord, mais c'est pas traduit en français, alors.
Si.
Bon,
si,
d'accord.
Si.
La voix du chaman. Et également, le produit qu'on vous avait donné pour vous guérir le dos.
Sanango.
Sanango. Mais bien évidemment, on ne le trouve pas en France.
Non.
Voilà, il faut aller là-bas, rencontrer les chamans, et à ce moment-là, effectivement, l'opération peut avoir lieu. Alors, revenons à cette expérience, ce produit terrible, qui déjà est peu ragoûtant, et donc la propulsion, en quelque sorte, vers un ailleurs.
Oui. Et subitement, j'ai régurgité ma première dose. Le chaman m'a pris mon pouls et m'a déclaré prêt pour une autre dose si je le désirais. Et donc j'en ai ravalé. Et peu de temps après, peut-être 10 minutes ou un quart d'heure plus tard, assis sur la plateforme d'une petite maison entourée de forêt, donc sous un toit de feuilles, dans l'obscurité, le chaman chantait des petites mélodies fluettes, genre... Et sur ces sons devenaient des images dans ma tête, d'abord des images kaléidoscopiques, et puis subitement je me suis retrouvé entouré d'énormes serpents fluorescents, 1 mètre de haut, 15 mètres de large, tridimensionnels, émettant une lumière beaucoup plus forte que la lumière de la réalité ordinaire, paraissant donc plus réel que réel, absolument terrifiant. Donc j'avais les cheveux dressés sur la tête, et ils se sont mis à me parler dans une sorte de langage télépathique qui transperce le front. Et la première chose que j'ai captée de ce qu'ils me disaient, c'était que je n'étais qu'un tout petit être humain, tout minuscule. Et ça m'a fait voir, c'est ce que M. Aumont disait avant, là, une des premières choses, l'effet, c'est qu'on prend conscience de son regard. Moi, j'ai pris conscience, exactement à ce moment-là, que j'avais dans mon regard des présupposés d'une arrogance terrible, puisque je présupposais que ce que mes yeux étaient en train de me montrer n'existait pas. Je pensais que ce niveau-là de la réalité, des esprits qui viendraient et tout ça, j'étais sûr que ça n'existait pas. Et là, j'étais réduit à une toute petite entité humble sur la planète, et je voyais qu'ils avaient raison, que c'était vrai que je n'étais qu'un tout petit être humain. Et bon, c'était une prise de conscience difficile. C'était un des moments les plus humiliants, on pourrait dire, de ma vie. Et avec ça, j'étais pris de nausées, encore une fois. Bon, j'ai quitté le lieu où on se tenait. J'étais un peu en contrebas de la maison.
Vous restiez relativement conscient d'une...
Oui, c'est ça la chose la plus étrange avec l'ayahuasca par rapport à d'autres états de transe. C'est que... On est pris par des visions extrêmement fortes qui remplacent la réalité tridimensionnelle dans laquelle on se trouve, et on reste absolument lucide. La suite de l'expérience, j'ai vomi des couleurs, j'ai parlé avec des entités, des sortes d'anges gardiens qui me disaient ce que je devais faire, j'ai vu des femmes indiennes léviter, la nuit était devenue claire, c'était comme la nuit américaine dans le film de Truffaut, on voyait... Je pouvais voir dans le noir. Quand je suis retourné m'asseoir à côté du chaman qui chantait encore, j'ai quitté mon corps. J'ai fait l'expérience de sortir de mon corps et de me retrouver bien au-dessus de la planète, que j'ai vue comme une boule de glace, toute petite la planète, et le chaman arrête son chant, et à ce moment-là, je suis retombé de nouveau dans mon corps.
Ah, vous êtes écroulé, là, à cette vitesse-là.
Je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas arrêter de chanter maintenant. Et donc, c'est toutes sortes d'images, des images des nervures d'une main humaine qui faisaient des flashs, des allers-retours avec les nervures d'une feuille verte et reluisante. Et des centaines de milliers d'images, vous voyez ces vidéos rock, ça fait comme des sortes de projections préhistoriques par rapport à ça. C'est tellement beau, c'est tellement organique, c'est tellement rapide. Ça donne l'impression, finalement, et ça dure pendant 2 ou 3 heures.
Alors, est-ce que vous avez eu l'impression d'entrer en contact avec des petits esprits qui se nicheraient au fond de vous? À un moment donné, dans votre ouvrage, vous dites qu'en réalité, pour les chamans, chaque particule devient pratiquement un esprit, qu'il y aurait presque un esprit dans les cheveux, un esprit sur chaque organe. Est-ce que vous aviez le sentiment, comme ça, d'être l'agrégat d'une multitude et d'être une supraconscience de cette multitude?
Non. Pas le premier soir. Par contre, le lendemain de cette expérience, c'est comme être dans une machine à laver pendant 3 heures, on dort. On se réveille le lendemain matin, il fait beau, tout va bien, on est de retour dans la réalité habituelle, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, je suis allé au bord de la rivière pour essayer de me rafraîchir les idées, et il y avait là une feuille verte, enfin une plante. J'ai pris la feuille et j'ai regardé les nervures au soleil, et puis j'ai regardé les nervures de ma main, et j'ai vu que, finalement, la feuille et moi, on était vraiment faits de la même matière, comme dans ce que j'avais vu le jour d'avant. Et que c'est la première fois de ma vie, moi je viens des faubourgs bétonnés, asphalte, briques, chauffage central, télévision et puis tout ça. C'était la première fois de ma vie que je me pensais comme un organisme de la planète. Et donc c'était comme une réconciliation fondamentale entre moi et les plantes. C'est la première fois que je me suis considéré comme une sorte de plante mobile, plante avec des jambes.
Est-ce que de là, vous vous êtes dit qu'il y avait effectivement conscience en toute chose et que cette tradition animiste, cette culture animiste, était à prendre véritablement en considération, que la vie ne pouvait en aucun cas se résumer aux critères que nous avons trop enracinés en Occident?
Oui, c'est vrai que, alors que là, on parle de ce que je crois, et j'essaye dans mon travail d'éviter de parler de ce que je crois au plus profond par rapport à la vie, parce qu'il s'agit plutôt de parler de ce qui est vérifiable par tout un chacun. Donc, mais c'est vrai que cette expérience m'a convaincu qu'il y a des choses qui font partie de la réalité, de la nature en particulier, qui échappent au regard froid du rationaliste que j'étais.
Alors par exemple aussi, à un moment, au début de votre arrivée dans cette partie de l'Amazonie péruvienne, chez ces Achinka, c'est ça ?
Achaninka.
Il y a le chaman qui est sollicité par une maman qui a son bébé malade. Et il va mâcher le tabac, c'est pas le tabac de chez nous, hein, c'est un tabac beaucoup plus pur. Et il se trouve dans cet état où il entre là en conversation avec la plante, c'est ça ?
Oui, il semble que les tabaqueros, donc les chamans qui utilisent du tabac, aient besoin d'une toute petite quantité de tabac. Et ce qu'ils disent, c'est que ça les met en contact directement avec l'esprit du tabac qui leur donne la faculté de faire un diagnostic.
Alors par exemple là, sur ce bébé, il arrive, il est souffrant, la maman est inquiète, on peut le comprendre, et le chaman se retrouve avec des visions, si j'ai bien compris, c'est cela ?
Alors, ce qu'ils racontent, ils ont la capacité de diagnostiquer, c'est la capacité de voir, et de voir dans le corps du bébé où se trouve l'esprit malfaisant qui cause la maladie, puis de le sucer. La capacité d'extraire ces entités-là une fois diagnostiquées.
C'est-à-dire qu'il y a succion à l'endroit précis de la douleur, enfin, ou du mal, et comme si symboliquement on allait expurger ce fléau de l'individu, à ce moment-là, miraculeusement, tout s'arrête, c'est ça ?
Vous le dites si bien. et on retrouve cette, visuel et spirituel suivi de succion un peu partout autour du monde où des chamans opèrent.
Alors pour autant, lorsque nous arrivons, nous, avec nos regards arrogants de scientistes rationalistes et qu'on leur apporte soi-disant la bonne parole, il y a quelques médecins, et ces médecins semblent venir en aide de ces peuplades qui parfois n'arrivent pas à trouver les bonnes solutions. C'est presque là une antinomie entre les deux, non ?
C'est vrai que Nous leur avons apporté des maladies pour lesquelles ils n'ont pas encore trouvé de remède à partir de leur médecine, et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'il y a des maladies chez nous pour lesquelles notre médecine n'a pas encore trouvé de remède. Alors, ce serait vraiment intéressant de combiner les deux médecines, d'arrêter cette guerre idéologique finalement.
C'est-à-dire que, là si je vous comprends bien, les plantes détiennent une vérité, mais elles détiennent une vérité en fonction du progrès du monde. C'est-à-dire quand on se trouve en Amazonie, à un certain état de développement de la société, la plante sait répondre éventuellement à notre attente.
Les manipulations de génie génétique au cas par cas.
Très bien, eh bien écoutez, bel enseignement, je vois que la nature est plutôt ouverte, hein.
Bavarde.
Alors, Jérémy Narby, merci beaucoup. Je pense que c'était plus que captivant de passer cette heure et demie en votre compagnie. Je rappelle votre ouvrage, Le Serpent Cosmique, l'ADN et les origines du savoir, aux éditions Georges, G-E-O-R-G, et c'est la collection Terramania. Dans un instant, l'ami Alain Sirou, c'est une autre façon d'aborder la science, mais toujours avec la passion.